Nous vous proposons maintenant un programme en rediffusion. Washington, la voix de l'Amérique, Amé Gros Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé. Un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Des centaines de milliers de jeunes filles en Afrique subsaharienne vont être protégées contre le cancer du col de l'utérus grâce à un nouveau partenariat entre le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline et l'ONG Gavi Alliance.
On a pour mission de sauver la vie des enfants et des femmes et des hommes dans les pays en voie de développement grâce à un financement pour la vaccination dans les pays en voie de développement. Et c'est une alliance assez unique.
Aurélien Guyenne de la Gavi Alliance nous en dira davantage. Fin en Italie du sommet visant à formuler une stratégie pour lutter contre la maladie de la striure brune du manioc. Et les plantes pourraient un jour fournir à la planète une bonne partie de son électricité. Des centaines de milliers de jeunes filles en Afrique subsaharienne vont être protégées contre le cancer du col de l'utérus grâce à un nouveau partenariat entre le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline et l'ONG Gavi Alliance. Il s'agit plus précisément d'un accord sur une nouvelle baisse record du prix des vaccins contre le virus du papillome humain, le VPH. Grâce au soutien de Gavi, les pays les plus pauvres de la planète auront désormais accès à un approvisionnement durable en vaccins anti-VPH au prix exceptionnellement bas de 4,5 $ américains la dose. Le cancer de l'utérus est un enjeu important dans les pays les plus pauvres où la disponibilité du dépistage est limitée. Sur les 275 000 femmes qui meurent chaque année d'un cancer du col de l'utérus, plus de 85% vivent dans les pays à faible revenu. Pour plus de précision, on écoute Aurélien Guyenne de la Gavi Alliance.
C'est un nouveau programme Gavi qui, grâce au soutien financier, va pouvoir aider les pays en voie de développement à avoir accès aux vaccins anti-VPH. Le VPH est une maladie sexuellement transmissible qui est courante et qui est une des causes principales de mortalité chez la femme dans les pays en voie de développement à cause du cancer du col de l'utérus. Et donc aujourd'hui, on a un nouvel accord qui est une baisse record du prix des vaccins contre le virus du papillome humain, donc le VPH. Et ce nouvel accord contribuera à protéger des millions de jeunes filles dans les pays en voie de développement, là où le besoin est le plus important.
Alors, la baisse du prix des vaccins contre le virus du papillome humain a été facilitée par la Gavi Alliance.
Tout à fait. Donc, la Gavi Alliance est un partenariat public-privé et on a pour mission de sauver la vie des enfants et des femmes et des hommes dans les pays en voie de développement grâce à un financement pour la vaccination dans les pays en voie de développement. Et c'est une alliance assez unique parce que nous réunissons les gouvernements, les pays donateurs, donc qui nous financent. On réunit l'OMS, l'UNICEF, mais aussi de manière importante l'industrie pharmaceutique. Et on travaille avec l'industrie pharmaceutique de façon à pouvoir rendre abordables les vaccins et de pouvoir les acheter à grande échelle pour ensuite les distribuer dans les pays où on travaille.
Gavi prévoit d'introduire le vaccin anti-VPH au Kenya avant la fin du mois. Et puis après, quels sont les pays africains où vous espérez le lancer ?
Nous allons commencer par, en effet, le Kenya. Puis ensuite, ça sera le Ghana, le Laos, Madagascar, Malawi, Niger, Sierra Leone, Tanzanie. Ça, ce sont déjà les pays dans lesquels nous avons prévu de commencer les programmes. Mais ensuite, nous avons une estimation comme quoi de nombreux autres pays qui sont éligibles au soutien Gavi pourront demander le vaccin et y avoir accès de façon à ce qu'il soit introduit. Tout d'abord, avec des programmes pilotes pour que les pays puissent se familiariser avec les vaccins. C'est un vaccin qui est donné aux filles préadolescentes, donc pas un groupe qui a accès à des systèmes de santé de manière régulière. Donc ils vont pouvoir faire des pilotes pour comprendre comment distribuer le vaccin VPH de manière efficace et puis petit à petit les introduire au niveau national.
Pour mieux comprendre l'importance de ce vaccin, il faut rappeler qu'en Afrique subsaharienne, les services de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus sont extrêmement rares, d'où le taux élevé de mortalité.
Tout à fait. En effet, c'est la deuxième cause de mortalité chez la femme dans les pays en voie de développement. Et les femmes ont très peu d'accès donc, au dépistage et au traitement. Donc le vaccin anti-VPH est un outil essentiel dans les pays en voie de développement pour pouvoir aider à lutter contre cette maladie.
On écoutait Aurélien Nguyen de la Gavi Alliance. Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. La plupart des plantes puisent leur énergie directement du soleil par photosynthèse. Si ce processus naturel pouvait être reproduit et exploité, une bonne partie des besoins énergétiques de la planète pourrait être satisfaits sans dégâts pour l'environnement. Alors justement, de nouveaux travaux permettent d'espérer. Le point avec Jacques Aristide.
La photosynthèse, comme vous le savez, est un processus naturel qui permet aux plantes de convertir l'énergie solaire en énergie chimique. À la lumière, les atomes d'eau sont séparés et transformés en hydrogène et oxygène grâce à une série de réactions chimiques. L'énergie tirée de ce processus sert à assurer la croissance de la plante. Des chercheurs de l'Université de Géorgie aux États-Unis ont réussi à transformer l'énergie chimique issue de la photosynthèse en énergie électrique en chipant au passage les électrons avant que la plante ne puisse s'en servir. Cette nouvelle stratégie pourrait permettre à terme de transformer l'énergie solaire en énergie électrique de manière fiable, écologique et renouvelable. Une équipe menée par le professeur Ramajara Ramasamy aurait développé cette technologie. Cette approche, a déclaré le professeur Ramasamy, pourrait un jour transformer notre capacité à produire de l'énergie propre à partir de la lumière du soleil en utilisant des systèmes à base de plantes. Néanmoins, le scientifique a reconnu que beaucoup de travail reste à faire pour améliorer le procédé avant qu'il soit prêt pour commercialisation. À noter que les chercheurs de l'Université de Géorgie ne sont ni les premiers ni les derniers à tenter de mettre les plantes au service du secteur énergétique. En France, des chercheurs du CNRS avaient mis au point en 2010 une biopile alimentée par les produits de la photosynthèse. L'engin était composé de deux électrodes modifiées avec des enzymes qui transformaient l'énergie chimique issue de la photosynthèse en énergie électrique.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé. Camille Grosdidier avec vous. L'Italie a accueilli cette semaine le sommet Global Cassava Partnership for the 21st Century, c'est-à-dire en français, le partenariat mondial pour le manioc pour le 21e siècle. Alors, la rencontre a été l'occasion d'enclencher une riposte à la maladie de la striure brune du manioc qui se répand de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest et pose une grave menace à la sécurité alimentaire de quelque 300 millions d'Africains. Je laisse M. Claude Fauquet, directeur du laboratoire international des biotechnologies appliquées à l'agriculture tropicale aux États-Unis et cofondateur de ce partenariat mondial sur le manioc, nous en dire davantage.
Cette maladie est transmise de deux façons différentes. La première, par un insecte qu'on appelle en français les mouches blanches ou les aleurodes. Et cette petite mouche, qui est blanche et qui va se nourrir sur beaucoup de plantes et en particulier le manioc, a la capacité naturelle de véhiculer des virus, toutes sortes de virus, et en particulier celui qui ou ceux qui causent cette maladie de la striure du manioc. Donc ça, c'est le premier mode de transmission. Le deuxième, c'est parce que le manioc est une plante qu'on dit à propagation végétative, c'est-à-dire que les fermiers prennent la tige du manioc, la coupent en morceaux et replantent cette tige, et à partir de la tige, une nouvelle plante va pousser. Et malheureusement, quand ils font ça, dans la tige, il y a suffisamment de virus pour créer ce qu'on appelle un inoculum, et qui ensuite va infecter la nouvelle plante. Et donc, la maladie se propage de ces deux façons-là, et ça peut aller relativement vite, c'est-à-dire que dans ce cas sur le manioc, les premiers reports ont été faits en 2003 sur la côte est de l'Afrique, et puis en 2004, elle était déjà sur ce qu'on appelle les hauts plateaux, et aujourd'hui, elle est présente dans pratiquement tous les 7 pays d'Afrique de l'Est et on commence à avoir des suspicions sur sa présence en Angola, dans le ouest du Congo. Et donc, c'est pour ça qu'on est très inquiet sur la possibilité de propagation à travers le continent africain qui pourrait avoir des effets encore plus grands que ceux qu'il y a à l'heure actuelle en Afrique de l'Est. Ceci dit, en Afrique de l'Est, c'est une catastrophe.
Pourquoi une catastrophe ?
Souvent, les maladies virales, sur toutes les plantes, elles affaiblissent la plante qui produit moins de graines ou moins de racines, mais elles produisent quand même quelque chose. Et donc, il y a déjà des virus comme ça sur le manioc, qu'on appelle la mosaïque africaine du manioc, qui se trouve déjà répandue sur tout le continent. Donc, le manioc souffre déjà de la présence de ces maladies, mais la striure, en plus d'affaiblir la plante, elle va créer ce qu'on appelle des nécroses dans les racines, qui est la partie qui est la plus consommée par les Africains. Et quand il y a ces nécroses, les racines entières ne peuvent pas être consommées. Les fermiers doivent les jeter. Même les animaux ne peuvent pas les consommer. Donc pendant un an et demi, les fermiers travaillent dans les champs, ils ont l'impression qu'ils vont avoir une récolte, et au moment de la récolte, ils sont obligés de jeter toutes les racines. Et c'est pour ça que cette maladie a un impact psychologique, économique et réel, beaucoup plus important que les autres maladies, parce qu'on perd tout. Il n'y a même pas l'espoir de pouvoir produire la moitié de la récolte ou moins, on ne peut plus rien produire du tout. Et malheureusement, quand les fermiers vont prendre les tiges de ces plantes, et les replanter, ils vont obtenir exactement la même chose.
Quand la maladie frappe, elle peut détruire 100% de la culture de manioc. Et en Italie, les experts étaient réunis donc pour discuter du problème cette semaine. Quels sont les projets ?
On va déclarer la guerre au virus du manioc. Et ça veut dire simplement qu'il faut qu'on mette en place un beaucoup plus grand nombre d'activités de telle sorte qu'on puisse enrayer les maladies qui existent déjà, enrayer le développement de cette striure dans le reste du continent et prévenir l'importation ou le développement de nouvelles maladies dans le futur. Et comme je vous l'ai dit, il y a déjà cette mosaïque africaine du manioc qui est partout et elle est là déjà depuis 100 ans. Il y a cette striure qui maintenant se développe depuis 10 ans de façon fulgurante en Afrique de l'Est. Et donc, si elle devait atteindre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ça serait encore plus catastrophique. Et puis, surtout, on sait déjà qu'avec le réchauffement climatique, il faut s'attendre à avoir de nouvelles maladies, en particulier virales pour le manioc. On sait que les insectes, ces mouches blanches, explosent. Il y a beaucoup plus d'insectes. Et quand il y a plus d'insectes, il y a plus de maladies. Donc, c'est une quasi-certitude que dans les décennies qui viennent, on va avoir des maladies qu'on ne connaît pas aujourd'hui.
Monsieur Claude Fauquet, directeur du Laboratoire international des biotechnologies appliquées à l'agriculture tropicale aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé en compagnie de Camille Gros-Didier. Vous vous souvenez du SARS, un coronavirus particulièrement virulent qui, en 2003 et 2004, a provoqué une mise en alerte à l'échelle mondiale du fait de son taux de mortalité particulièrement élevé et de sa capacité de contagion remarquable. Eh bien voilà, le ministère de la Santé d'Arabie Saoudite a informé l'Organisation mondiale de la santé cette semaine que de nouveaux cas confirmés en laboratoire d'infection par un nouveau coronavirus ont fait surface. Depuis le début du mois de mai, 13 cas au total ont été notifiés comme appartenant à cette flambée, parmi lesquels 7 malades sont décédés, soit un taux de mortalité supérieur à 50%. La France a également signalé plusieurs cas suspects, alors l'OMS encourage tous ses États membres à poursuivre leur surveillance des infections respiratoires aiguës sévères. D'autant qu'à l'autre bout de la planète, en Chine, l'agence Xinhua signalait jeudi un nouveau décès dû, celui-là, à la grippe aviaire H7N9, ce qui a porté à au moins 32 le nombre de morts dus à cette infection dans le pays, selon les autorités. Camille Gros-Didier pour cette édition de Carrefour Science et Santé, ici Washington, la Voix de l'Amérique. Un groupe d'experts indépendants des Nations Unies a attiré l'attention cette semaine sur la discrimination dont souffrent les personnes atteintes d'albinisme en Tanzanie, où la Journée nationale de l'albinisme est observée le 11 mai. L'albinisme est en fait une maladie héréditaire non contagieuse qui touche les hommes comme les femmes, quelle que soit leur ethnie ou leur nationalité. On trouve des albinos en Chine, tout comme en Afrique, en Australie, tout comme aux États-Unis. L'albinisme peut survenir chez n'importe quel individu si l'un des parents est porteur du gène, même si le père ou la mère ne sont pas eux-mêmes albinos. Alors la maladie se manifeste par un déficit de pigmentation dans les cheveux, la peau et les yeux et expose la personne qui en souffre à une vulnérabilité au soleil et à la lumière. Les cancers de la peau sont fréquents chez les albinos. La maladie est beaucoup plus répandue que l'on ne s'en rend compte. Selon l'ONU, on estime qu'en Amérique du Nord et en Europe, une personne sur 20 000 au moins souffre d'albinisme à des degrés divers. Et en Afrique orientale, l'albinisme est encore plus fréquent avec environ une personne sur 2 000 touchées. Dans plusieurs pays africains, les superstitions font que certains croient que les membres des albinos possèdent des pouvoirs magiques, des croyances qui entraînent des meurtres rituels dans des pays tels que le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo ou encore le Gabon. Alors au Gabon, une marche est d'ailleurs prévue à Libreville le 11 mai pour dénoncer ce phénomène. La manifestation a été organisée par l'Association de lutte contre les crimes rituels. Les participants comptent entre autres sur l'appui de la Première Dame du Gabon et ils comptent remettre un mémorandum au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour plus de précision, on écoute M. Jean-Elvis Ebang Ondo, président de l'Association de lutte contre les crimes rituels.
Le crime rituel au niveau national, c'est même presque au niveau de la sous-région. Ce sont ces corps qu'on ramasse dans la nature, détressés, démembrés, les corps qui présentent les prélèvements de certains organes, qu'on appelle couramment chez nous les pièces détachées. Ce sont des rituels parce qu'on tue soit pour consommer le sang humain, soit pour consommer la chair humaine, qu'on appelle chez nous ici le corps viande. On continue à manger, c'est-à-dire le cannibalisme chez nous.
Est-ce que ces pièces servent également à fabriquer des allumettes?
Non, c'est un langage codé, un langage qui concerne la banalisation de l'être humain, de cette élite gabonaise qui ne croit plus à l'effort. Pièces détachées, ce sont les yeux, le cerveau, la langue, le sexe, le cœur, les bras, en disant les mains. Toutes ces parties du corps ont un sens au niveau des marabouts. Marabouts ici, ce sont les féticheurs, les ngangas, quand ils se retrouvent dans leur temple démoniaque pour poser ces actes en train de satisfaire les forces du mal, c'est-à-dire les ténèbres.
Mais est-ce que des responsables médicaux, sanitaires participeront à votre marche pour expliquer qu'en fait la consommation de ces morceaux de chair humaine ne confère absolument aucun pouvoir que la science ait pu montrer?
C'est un problème de culture. Étant donné que des hautes personnalités sont dedans, on impose aux basses couches les plus défavorisées ce système-là. Les médecins, il faut élargir la question en parlant aussi des religieux, les enseignants. On peut toutefois éduquer, évangéliser la population, mais c'est un problème de culture importé que ces gens-là imposent à la population actuellement.
Et par ailleurs, est-ce que les albinos sont particulièrement visés par ces crimes rituels?
Oui, madame. Albinos, tout comme les immigrés et même les nationaux, aucune personne n'est épargnée. L'âge varie de 0 à 77 ans. Et à tout moment, vous êtes capable, si ça tombe sur vous, si vous avez la malchance, d'être enlevé, dépecé, violé, et on peut faire de vous ce qu'ils veulent.
Mais est-ce que le phénomène s'atténue peu à peu ou est-ce qu'il s'est amplifié ?
De plus en plus l'amplification, car au début, lorsque nous avons commencé notre combat, on pouvait dénombrer, compter deux ou trois par mois. Maintenant, on arrive à quatre ou cinq par semaine. C'est pour vous dire que la situation est très, très grave. Nous vivons dans l'insécurité totale. Aucune personne n'est épargnée.
Avez-vous quelque chose à ajouter?
Les remerciements de votre interview. Vous venez me donner une occasion d'expliquer à la communauté internationale la psychose, la peur, le problème des crimes rituels qui ternissent l'image du pays. Et surtout de nous soutenir que toute personne de bonne moralité, de bonne foi, vienne en aide à notre association. Vous avez les contacts, s'ils peuvent vous contacter, vous rejoindre. Et même nous aussi, nous sommes prêts à aller dans le sens de travailler dans le but du respect de la dignité humaine, le droit à la vie, un droit universel.
Est-ce que des associations similaires à la vôtre d'autres pays ont pris contact avec vous?
Oui, pour le moment, je travaille avec l'association qui lutte contre les assassinats des albinos au Burundi. Et dans la sous-région, je crois qu'il y en aura d'autres qui peuvent surgir parce que j'ai été contacté par les Camerounais. C'est un problème qui se vit actuellement au Cameroun.
Monsieur Jean-Elvis Ebang Ondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels. Il était joint à Libreville, au Gabon. Washington, vous suivez Carrefour Science et Santé. Et pour finir, eh bien, vous le savez, l'Internet est en train de tout bouleverser. Tout d'abord, les réseaux virtuels ont révolutionné les communications et puis les systèmes commerciaux et bancaires. Alors aujourd'hui, la technologie est mise au service de la santé en Afrique. Des localités privées de personnel médical sont enfin désenclavées grâce à des ordinateurs ou tablettes et grâce à Skype, le logiciel gratuit qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques via Internet. Et du coup, les malades peuvent enfin communiquer à distance avec des médecins et recevoir par Internet conseils et ordonnances. Pour Madame Isabelle Adenauer, ancienne représentante du Fonds monétaire international au Burkina Faso, la technologie est primordiale pour permettre aux plus pauvres d'accéder à un minimum de services de santé. On l'écoute.
Non, c'est très très important parce qu'on a vu des cas, moi-même j'ai vu des régions au Burkina Faso, où par exemple si une femme a des complications avec l'accouchement, littéralement ils les mettent sur un charrier avec un âne. Et ça prend un jour pour se diriger vers le prochain dispensaire. Alors je pense, comme vous le dites, la technologie peut jouer un rôle vraiment exorbitant dans ça. Et pour le sujet dont je parlais, le transfert en cash direct, là aussi, on a vu ça d'ailleurs dans des pays comme au Kenya et d'autres. On donne aux gens une petite carte et souvent ça marche aussi à travers du...
Ah, une petite carte avec de l'argent dessus.
À travers mobile banking les portables.
Oui.
Et là aussi, on peut vraiment
peut aider directement les gens en leur donnant des cartes préchargées avec une certaine somme.
C'est ça.
Voilà. Et comme ça, on sait où va l'argent.
Exactement. Oui.
Il ne peut pas être détourné.
Non.
Très bien. Eh bien, Isabelle Adenauer, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ces cartes mentionnées par la responsable du FMI permettent de fournir une aide directe aux populations pour couvrir certains besoins sociaux, dont bien sûr les soins de santé. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion. Bienvenue à bord.